Alors, la lecture d'aujourd'hui est dans l'évangile de Marc, au chapitre 10, les versets 17 à 30. Comme il se mettait en chemin, un homme accourut et se mit à genoux devant lui pour lui demander « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Pourquoi me dis-tu bon ? Personne n'est bon, sinon Dieu lui seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne fais pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé tout cela depuis mon plus jeune âge. » Jésus le regarda et l'aima. Il lui dit, « Il te manque une seule chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais lui s'assombrit à cette parole et s'en alla tout triste, car il avait beaucoup de biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples, « Qu'il est difficile à ceux qui ont des biens d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient effrayés par ces paroles. Mais Jésus reprit, « Mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples, plus ébahis encore, se disaient les uns aux autres, « Alors, qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit, « C'est impossible pour les humains, mais non pas pour Dieu, car tout est possible pour Dieu. » Pierre se mit à lui dire, « Nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus répondit, « Amen. Je vous le dis, il n'est personne qui ait quitté à cause de moi et de la bonne nouvelle, maison, frère, sœur, mère, père, enfant ou terre, et qui ne reçoivent au centuple dans le temps présent, maison, frère, sœur, mère, enfant et terre, avec les persécutions, et dans le monde qui vient, la vie éternelle. » La semaine dernière, Didier a soumis à notre réflexion la parabole du riche déraisonnable. Eh bien, cette semaine, il est de nouveau question de richesse, comme vous avez pu le percevoir à la lecture de ce texte. Cet homme, dont nous venons de lire l'histoire, est un modèle comme il y en a toujours eu et qu'il y en aura longtemps encore. Aujourd'hui, des hommes, des femmes lui ressemblent, et pour tout vous dire, nous lui ressemblons aussi. C'est un homme qui a de grands biens et il suit scrupuleusement tout ce que la religion autorise de faire, et ceci ne lui pose aucun problème. Il court après Jésus, car il voudrait acquérir quelque chose qu'il n'a pas. C'est une personne humble, au point de s'agenouiller devant Jésus pour formuler sa demande. Il reconnaît par cette attitude la grandeur de celui qu'il nomme maître et affiche ainsi devant tous sa faiblesse. Il est riche. Il a tout ce qu'il souhaite, mais il veut encore plus. Il voudrait acquérir la vie éternelle, mais il ne sait pas ce qu'il doit faire pour y parvenir. Il connaît la loi, la suit scrupuleusement, mais il sent ce vide en lui qui indique que quelque chose lui manque pour être comblé. C'est cette absence qui motive sa demande. Il est là, à genoux, implorant une réponse de Jésus qu'il connaît comme maître, dont la bonté est grande, mais Jésus lui répond que seul Dieu est bon et lui conseille d'observer les commandements qu'il énumère. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne fais pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. L'homme lui répond qu'il fait cela depuis son plus jeune âge. Il a probablement été élevé dans une famille très pieuse de tradition juive qui observe avec rigueur les prescriptions de la religion. Il y a alors un déclic chez Jésus qui regarde cet homme et il l'aime tout simplement. Comme ça, instantanément, alors qu'il ne le connaissait pas quelques instants auparavant. L'amour spontané de Jésus pour cet homme le conduit à lui confier la recette pour hériter la vie éternelle. Je le vois faire le sourire aux lèvres. Non pas un sourire moqueur, mais au contraire, plein d'encouragement. Comme un parent perçoit ce qui ne va pas chez son enfant, comme un médecin diagnostique une défaillance chez un malade, comme un professeur décèle une anomalie dans les résultats ou le comportement d'un élève, Jésus a trouvé, en l'espace d'un instant, qu'il manque quelque chose d'important à cet homme. Il lui suggère d'aller vendre tout ce qu'il possède et de le donner aux pauvres. Il lui assure conjointement qu'il aura un trésor dans le ciel et lui dit « Puis viens, et suis-moi. » Mais ce conseil n'est pas suivi de l'effet escompté et l'homme s'en va avec tristesse car il a de grands biens. Il ne peut envisager de s'en séparer. Cet homme n'a probablement pas reconnu en Jésus le Fils de Dieu. Il n'a pas une foi profonde. Il n'a pas perçu tout l'amour que Jésus peut lui donner. Il n'a pas compris qu'en donnant, il allait recevoir ce qui allait combler son manque. Il s'en va malheureux et démuni d'amour. Ce qu'avait remarqué Jésus qui manquait à cet homme, c'est à mon avis le manque de liberté et certainement de fraternité. Oui, il n'est pas libre, il est enfermé, prisonnier de ses biens. Rendez-vous compte de l'importance de la demande de Jésus. Il lui dit « Vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. » Mais enfin, comment se séparer de tout ce qui a été amassé petit à petit grâce à son travail ou bien dont il a hérité de ses parents et de ses aïeux? On ne fait pas le vide en se débarrassant ainsi de son passé. Cela se garde et se transmet aux générations qui suivent. Il y a une histoire autour des objets et aussi des souvenirs et des sentiments qui en découlent. Cet homme est attaché à ce qu'il possède et j'ai envie de dire, c'est normal. Car que faisons-nous d'autre, nous aussi, aujourd'hui ? Exactement la même chose. Nous n'avons peut-être pas de très grandes richesses, mais nous tenons à nos acquis et nos possessions, aussi petites soient-elles. Ne sommes-nous pas alors nous aussi prisonniers ? Car on ne va tout de même pas se séparer de cette très belle armoire patinée par le temps ou de cette vieille horloge transmise depuis plusieurs générations dans la famille. Nous n'envisageons pas non plus de vendre cette maison qu'on a eu bien du mal à acquérir mensualité après mensualité. Quant à vendre ce petit bijou qui est la croix huguenote qui pend à notre cou, mesdames, et qui a été offerte pour notre baptême ou notre communion, hors de question de seulement évoquer cette pensée. Ce sont nos biens, nos trésors, nos richesses, bien difficiles de s'en défaire. Comme cet homme riche, nous sommes prisonniers. Prisonniers de nous-mêmes et de nos avoirs, la liberté nous échappe. L'homme riche ne peut envisager de ne plus rien avoir à lui, et même la promesse d'avoir un trésor dans le ciel ne le décide pas à changer de vie. Dans le ciel, cela n'est pas palpable dans l'instant, et ça évoque la mort. Or, quand on est mort, à quoi servirait un trésor ? Il n'a pas compris qu'un mot à peine dissimulé, Jésus répondait à sa demande et lui permettait justement, au-delà de la mort, d'acquérir la vie éternelle. Jésus fait alors un constat. Il est difficile à ceux qui ont du bien d'entrer dans le royaume de Dieu. Cela surprend ses disciples et il ajoute, reprenant sa phrase, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples n'en reviennent pas d'entendre un tel discours. Et nous en sommes encore aujourd'hui surpris, étonnés. En effet, essayons de passer un brin de laine dans le chat d'une aiguille choisie pour coudre un tissu fin. Personne n'y parviendra, et pour cause. L'étroitesse du trou de l'aiguille ne le permettra pas. Bien sûr, un chameau n'y passerait pas non plus. C'est sciemment que Jésus a choisi cette image qu'on peut trouver complètement farfelue, afin qu'on comprenne qu'avec des esprits aussi étroits que le chat d'une aiguille, nous ne pouvons arriver à la compréhension de ce qu'est Dieu, ni découvrir qui est Dieu. Alors, qui sera sauvé ? Qui aura la vie éternelle ? Ce n'est pas parce qu'il est écrit de tout vendre et quitter dans le texte que nous devons l'appliquer à la lettre. Car, qui s'occupera des enfants qui ne peuvent se débrouiller seuls et qu'il faut élever et éduquer pour en faire des humains adultes? Qui viendra en aide aux parents déficients qui ont besoin de soutien dans leurs vieux jours? Notre présence dans nos familles est importante. Dieu le sait, car c'est par sa volonté que nous sommes dans la situation que nous vivons. C'est Dieu qui décide de tout. Il est notre guide. C'est lui qui nous a amenés ici ce matin et il nous demande de faire vivre notre Église. Il est dit dans le texte que nous avons lu, nous serons donnés dans le temps présent maison, frères, sœurs, mère, enfants et terre. Et tous les membres de notre communauté de la Valleuse Chevreuse, ce sont ses frères, sœurs, mères, enfants, avec lesquels nous pouvons partager et poursuivre l'édification de notre Église. C'est là qu'est le trésor dont parle Jésus. Il est à découvrir dans l'amour de notre prochain, maintenant, dans le temps présent. C'est par la grâce que Dieu nous accorde que nous pouvons envisager l'agrandissement de notre communauté. Ce que je veux dire n'est pas forcément l'agrandissement en poussant les murs ou l'augmentation du nombre de personnes, bien qu'il soit aussi nécessaire. Cet agrandissement, je le perçois comme une réelle fraternité au sein de cette paroisse, avec une implication de chacun, de chacune d'entre nous pour la faire vivre. Dieu ne peut faire à notre place ce qui nous revient de droit et ce qu'il attend de nous, c'est d'aimer, d'aider notre prochain, notre frère dans la communauté, pour ensemble construire son Église et ainsi l'agrandir. C'est ainsi qu'on est sûr de le servir et oui, nous connaîtrons la vie éternelle. C'est ici, entre nous, dans notre paroisse de la Vallée de Chevreuse, que se construit notre après. Mais c'est aussi dans notre vie de chaque jour, en dehors de ces murs, car nos œuvres ne peuvent pas se limiter à une seule paroisse. Elles doivent se poursuivre au-delà de la porte du temple. Ouvrons nos yeux pour voir qu'au milieu des personnes ici rassemblées, notre proche voisin est peut-être la personne à découvrir. Tendons nos oreilles pour entendre le murmure de celui qui n'ose dire sa détresse. Ouvrons et tendons nos mains pour saisir celles des nouveaux venus, pour donner, mais aussi pour recevoir. Ouvrons nos lèvres pour que s'en échappent des sourires et des paroles restauratrices et bienfaisantes. Créons en nous un cœur neuf et accueillant pour accompagner. Élargissons nos vues de l'esprit pour acquérir la compréhension de Dieu qui nous mènera sur le chemin qu'il choisit pour chacun de nous, pour arriver jusqu'à lui. Là, il nous accueillera et il nous donnera, avec sa grâce, la vie éternelle promise par son Fils Jésus-Christ. Amen.